Carnet d'IG, cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Saison 1, la mémoire qui déraille. Carnet d'IG, épisode 3. Tristesse, joie ou peur, autant d'émotions que nous ressentons. Nous nous sommes longtemps demandé où les émotions avaient leur siège, dans le corps. Depuis l'Antiquité, les plus grands médecins et philosophes s'y sont intéressés. Sont-elles dans le sang, le cœur ou encore la bile? Eh bien non. Encore une fois, tout passe par notre cerveau. C'est marrant. J'aurais eu tendance à dire que c'était mon ventre, le foyer de mes émotions.
Tu te souviens ? Avant nos examens, tu t'asseyais par terre dans le couloir en te massant le ventre pour essayer d'apaiser ta petite boule au ventre, comme tu l'appelais.
Je n'ai jamais eu l'estomac aussi noué que quelques heures avant mon premier entretien d'embauche. J'étais tellement stressée, je pouvais plus rien manger.
Quand je repense à mon premier amour, je me demande si je n'avais pas de vrais papillons dans le ventre. Ça me faisait tout drôle à l'époque.
Mes questionnements vont peut-être avoir quelques réponses. Je les ai posés à Michel Nunlist, directeur de l'unité TENS, qui étudie le système nerveux entérique dans les maladies de l'intestin et du cerveau.
Il y a un historique en science, c'est que l'intestin, le bon fonctionnement de notre intestin est intimement lié à notre bien-être, à notre santé.
Lui et son équipe visent à mieux comprendre les mécanismes liés aux troubles digestifs, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi dans les pathologies du cerveau. Il me parle de l'intestin, le nôtre, en tant qu'humain, mais pas que.
Parce que c'est finalement l'organe qui assure notre survie en puisant dans notre environnement l'énergie nécessaire au fonctionnement de tous les organes. Et que c'est une fonction communément partagée par l'ensemble des organismes complexes, présents sur Terre et qui ont existé bien avant nous, que ce fonctionnement de l'intestin est un fonctionnement extrêmement complexe. Le tube digestif, c'est pas juste un tuyau dans lequel les aliments tombent et passent simplement par gravité et ressortent par l'extrémité inférieure, mais que l'absorption efficace des nutriments passe par des processus extrêmement complexes de motricité, de transport, de mixtion des aliments, de transport des aliments vers les sites de leur absorption spécifique. Une fois qu'ils sont sur ces sites-là, ils doivent être absorbés à travers cette fine couche de cellules épithéliales qui tapissent notre intestin.
Mais alors, toutes ces expressions liées au ventre pour évoquer nos émotions, est-ce un hasard? Pas vraiment. Car notre système nerveux ne se limite pas qu'au cerveau dans notre tête. Il existe également un système nerveux dans notre ventre.
Je pense que les émotions sont régulées par le cerveau, les fonctions digestives sont régulées par le système nerveux entérique, avec la chimie dont vous parliez, qui existe dans le cerveau, qui elle régule les fonctions digestives, et le microbiote intestinal.
Un intestin dont la fonction principale est d'absorber les nutriments nécessaires pour vivre. Enfin, quand on arrive à manger. Un organe qui est vital à notre survie, aux multiples fonctions.
L'ensemble de ces fonctions, elle est régulée par un système nerveux, un chef d'orchestre qui est ce système nerveux. C'est 200 millions de neurones qui sont présents tout le long du tube digestif, qui sont présents effectivement chez tous les animaux. On les retrouve déjà dans les animaux de mer, des êtres qui possèdent pas encore de cerveau. Donc ça fait de ce système nerveux un peu un système nerveux originel. Et cette similitude aussi chez nous, les vertébrés, cette similitude avec le système nerveux central repose sur le fait que, d'une part, il y a deux constituants majeurs, les neurones et un peu les astrocytes, ces cellules qui régulent la connectivité du système nerveux central. Et finalement, ils découlent de la même origine que ce qui va donner le cerveau, c'est-à-dire que les plaques neurales qui va se développer, qui est présente dans les phases embryonnaires précoces, qui va devenir le cerveau, c'est aussi la source de cellules qui vont former ce système nerveux entérique, car très tôt dans l'embryogenèse, c'est les cellules de la crête neurale vont se détacher de ce qui va donner le cerveau et coloniser, migrer le tube digestif, du haut du tube digestif vers le bas, de sorte que 7 semaines après la conception, chez l'homme, l'ensemble du tube digestif est déjà colonisé par un système nerveux complexe qui, effectivement, va maturer au cours du développement de l'embryon, du fœtus, et qui va, à la naissance, finalement, remplacer le rôle de la mère, c'est-à-dire que il va permettre à cet organe qui est l'intestin de remplacer donc le rôle de la mère, c'est-à-dire de nourrir l'enfant et de permettre le développement de l'ensemble des autres organes. Et à ce titre-là, c'est effectivement un système nerveux qui est extrêmement important, fondamental pour le fonctionnement du tube digestif, mais d'une manière plus générale, fondamental pour le fonctionnement de tout organisme. Car sans ce système nerveux, aucun organisme ne vivrait ou ne survivrait à la naissance.
Cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Et oui, tout un réseau de neurones et de cellules gliales. Le même type de cellules que celles de notre cerveau est indispensable à notre survie. D'ailleurs, j'ai entendu dire que ce dernier se faisait souvent appeler « second cerveau ».
Je pense qu'il faut qu'on reprécise une chose, c'est-à-dire que ce sont deux systèmes nerveux qui sont indépendants, qui chacun ont des fonctions bien, bien distinctes. Le système nerveux entérique qui régule les fonctions digestives, et le système nerveux central régule le comportement, régule des fonctions de motricité, des fonctions de sociabilité, beaucoup d'autres fonctions complexes.
Ils sont indépendants, mais existe-t-il des liens entre les deux ?
Alors effectivement, ils se ressemblent. Peut-être aussi, ils peuvent communiquer entre eux de manière indirecte à travers les facteurs humoraux, à travers la circulation sanguine, les voies lymphatiques, par exemple aussi, qui sont des voies de communication entre ces deux systèmes, des voies nerveuses avec le système nerveux parasympathique, comme le nerf vague ou le système nerveux sympathique. Et surtout, ce qui est intéressant dans un contexte de pathologie chronique et d'exposition à des facteurs environnementaux liés à la santé ou aux pathologies, c'est que conceptuellement, on comprend que si un facteur environnemental va pouvoir accéder à travers, par exemple, l'alimentation, la barrière épithéliale, à ce système nerveux entérique, va induire des modifications de ce système nerveux entérique, et que ces substances vont être capables d'accéder au cerveau à travers, par exemple, la circulation sanguine.
Mais est-ce que c'est plutôt le cerveau qui influence et modifie le tube digestif, ou à l'inverse, c'est l'intestin qui influencerait notre cerveau ? On peut se demander si ce qui nous entoure, des facteurs environnementaux, pourraient déclencher certaines maladies, par exemple en passant la barrière intestinale pour atteindre le système nerveux entérique, avant de toucher le système nerveux central ?
C'est une hypothèse de travail qui montre aussi, et c'est à noter, une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'une atteinte du cerveau peut aussi être transférée dans le tube digestif. C'est plutôt un modulateur, un système qui module l'ensemble, mais qui n'a pas une vocation de le réguler au sens propre, parce que ce sont des systèmes qui, effectivement, sont influencés, parce qu'un système nerveux, qu'elle soit neurodéveloppementale, comme les troubles du spectre autistique, neurodégénérative, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, c'est pour ça que dans beaucoup de maladies digestives, on a des comorbidités centrales, donc des troubles, par exemple, dans les troubles fonctionnels digestifs, on a des troubles de l'anxiété, des troubles de la dépression, mais inversement, dans des maladies du système nerveux central, comme dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer, ça a été décrit plus récemment, on a aussi des troubles digestifs. Il a été démontré chez l'animal que lorsqu'on induit la lésion dans le système nerveux entérique à travers différents facteurs, lorsqu'on induit des modifications spécifiques de certaines protéines, elles peuvent effectivement migrer de l'intestin vers le cerveau. Et lorsqu'on coupe, par exemple, le lien avec le cerveau à travers le nerf vague, on empêche cette propagation des processus pathologiques de l'intestin vers le cerveau. Ils détectent le microbiote intestinal comme ils peuvent détecter d'autres facteurs environnementaux, tels que des facteurs alimentaires, des protéines, qui vont avoir des impacts sur les fonctions digestives ou comportementales. Donc moi, je pense que, personnellement, c'est plus un modulateur qu'un régulateur.
Un système complexe, donc, aux multiples variables environnementales et où le microbiote intestinal a aussi un rôle à jouer. Mais ça, on le découvrira un peu plus tard. Est-ce que c'est l'ensemble du corps qui peut être atteint par ces troubles, qu'ils viennent du cerveau ou de l'intestin ?
Ça touche effectivement le tube digestif, mais aussi d'autres organes périphériques. Hein. Il y a aussi des troubles au niveau, par exemple, des troubles du rythme cardiaque qui peuvent être associés. Donc, c'est tout le système nerveux périphérique qui atteint. Mais ce qui est intéressant dans ces pathologies, c'est que souvent, il y a une atteinte précoce de ce système nerveux entérique qui se reflète par la présence de troubles digestifs précoces avant l'apparition des symptômes moteurs dans le cadre de la maladie de Parkinson. Et dans une étude récente qui a été réalisée, qui a été publiée là dans Lancet sur une cohorte de patients anglais et français, il a aussi été démontré que l'atteinte digestive est précoce aussi dans la maladie d'Alzheimer. Donc ce qui suggérerait soit une sensibilité accrue du système nerveux entérique à des facteurs environnementaux, soit une initiation du processus physiopathologique dans le ventre, dans le tube digestif, en particulier dans le système nerveux entérique.
La maladie de Parkinson, c'est cette atteinte et destruction des neurones du cerveau dont on avait parlé précédemment. Une maladie qui touche aussi notre second cerveau, notre intestin. Elle reste une maladie encore mystérieuse, et nombreuses sont les personnes qui travaillent dessus.
Sur la maladie de Parkinson, on sait qu'il y a déjà deux causalités.
Comme Sébastien Payusson, chercheur à l'unité INSERM 1235, qui étudie les maladies de l'intestin. Il est spécialiste des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson.
Une causalité génétique, donc certains patients possèdent des gènes qui sont responsables de la maladie de Parkinson, comme par exemple des mutations familiales, mais ces facteurs génétiques ne représentent que 10% des cas. L'autre composante, c'est ce qu'on appelle la forme idiopathique, des formes dont on ne connaît pas forcément l'origine, et l'origine est probablement environnementale. Donc on sait par exemple que des pesticides ou la consommation d'eau de puits entraîne plus de formes de maladie de Parkinson chez les gens. C'est vrai que les formes idiopathiques sont extrêmement intéressantes, cependant elles sont extrêmement complexes aussi à appréhender, et c'est là que justement les formes génétiques rentrent en jeu, parce qu'elles nous permettent de nous donner des pistes. Donc c'est comme ça qu'on a pu comprendre que la phagie nucléine avait un rôle majeur, que la mitochondrie également avait un rôle majeur dans la maladie de Parkinson. Et donc pour essayer de soigner la maladie, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui entraîne ces défauts de protéostasie de la phagie nucléine. Et on a un petit temps de retard sur ça, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'organe, il a la similarité avec le cerveau, mais qu'il a également sa propre identité, et que qu'on peut découvrir de nouveaux biomarqueurs ou de nouvelles fonctions atteintes dans cette maladie.
On peut donc imaginer que l'étude de notre système nerveux entérique nous apporte de nouvelles informations sur des pathologies. Pourrait-on considérer cela comme un espoir d'identification plus précoce de certaines maladies ? Notre second cerveau peut-il nous aider à mieux appréhender le premier ?
C'est vrai que la recherche de biomarqueurs, c'est un peu le graal dans les maladies, et notamment dans les maladies neurodégénératives. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de biomarqueurs des maladies neurodégénératives. C'est soit post-mortem ou c'est soit trop tard. Et effectivement, étant donné que le système nerveux entérique, il a cette atteinte miroir dans la maladie de Parkinson ou dans d'autres atteintes de maladies neurodégénératives, on est en droit de penser que ça peut être une très très bonne source de biomarqueurs. Et notamment dans la détection d'agrégats protéiques qui sont les signatures de ces maladies neurodégénératives. Donc effectivement, c'est vraiment encourageant pour la suite, mais il y a encore un peu de travail à faire là-dessus.
Alzheimer, Parkinson, c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des maladies qui se déclenchent à un stade plutôt avancé de notre vie, même s'il existe des cas précoces. Mais d'autres pathologies mentales peuvent se déclarer bien plus tôt dans le cycle de notre vie, comme la dépression ou encore l'anxiété. La pandémie que nous avons traversée a mis en exergue ces dernières, avec une explosion du nombre de personnes touchées par ces troubles. Est-ce que là aussi un dérèglement au niveau intestinal peut être un signal ou symptôme ?
Il reçoit des influences nerveuses du cerveau, notamment parasympathiques et sympathiques, qui, par exemple, peut contrôler le transit en cas de stress, par exemple. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien.
Dans notre corps, tout est lié. Il y a toujours un point de départ, mais parfois plusieurs points de chute. Si bien que ce n'est pas toujours facile de déterminer l'origine d'un problème. Dans certaines pathologies mentales, on pourrait croire que ce qui semble le plus évident, c'est un problème au niveau du cerveau. Or, de récentes études semblent démontrer que l'état de l'environnement dans lequel se situe notre intestin, le second cerveau, peut aussi avoir une incidence sur l'apparition de certaines pathologies mentales comme Alzheimer ou la dépression. Mais alors, la faute à qui ? Le cerveau ou l'intestin ? C'est une question que nous allons continuer de nous poser dans nos carnets d'IG. Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM. C'est la fin de cet épisode de Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM consacré à la découverte des mécanismes de notre corps. Nous remercions Michel Nunlist et Sébastien Payusson pour leurs interventions dans cet épisode. Une coproduction de l'INSERM et du Labo des Savoirs que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.